donc de François Moisan, qui est directeur de la stratégie et de la recherche de l'ADEME. Vous allez nous dire, l'ADEME, agence.
L'ADEME, donc l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Voilà. Et donc vous êtes un spécialiste de prospective de l'énergie, vous avez participé aux travaux du commissariat du plan. Donc vous allez nous compléter ce panorama en parlant des comportements des agents économiques pour essayer de réduire l'impact dont M. Dodu vient de nous parler.
Tout à fait. Alors d'abord, les travaux du plan auxquels vous faites allusion, c'était il y a 10 ans. C'était les travaux de prospective de quel coût consommerait la France en 2010.
Il y avait encore un plan.
Il y avait encore un plan. Voilà. Et je ne vais pas contredire Antoine Dodu quand il dit qu'un choc pétrolier externe a un impact négatif sur la croissance. En revanche, je parlais plutôt des politiques qu'on peut mettre en œuvre pour effectivement en faveur d'une croissance verte. Alors, trois points que je voudrais évoquer. D'abord, sur les évolutions récentes du prix de l'énergie et l'impact sur les ménages. Donc, ça fera peut-être quelques précisions sur ce que vient de dire Antoine Dodu. Ensuite, je parlerai des mesures du Grenelle de l'environnement pour réduire les consommations d'énergie dans les logements. Et puis, un point aussi sur le secteur des transports avec un instrument plus particulier qui est le bonus-malus et son impact. Alors, plus ces instruments situent par rapport, bien sûr, aux perspectives de rareté croissante du pétrole et de son impact sur les prix, mais également, ça a été évoqué par Lionel Rago, de la problématique changement climatique. Et donc, on a là une double problématique. Et aussi préciser que, bien sûr, on parle du pétrole, mais le gaz, bon, d'abord par son prix, est encore très indexé avec le prix du pétrole. Et c'est aussi un des énergies fossiles qui émet des gaz à effet de serre. Alors, on m'a demandé, bon, retracer depuis, là, vous voyez, 1960, l'intensité alors, énergétique, c'est pas pétrolière, c'est énergétique globale, mais ce graphique date d'il y a déjà quelques années. Et vous voyez qu'on a, de toute façon, au-delà de la baisse de l'intensité pétrolière, ça a été évoqué, la quantité de pétrole pour faire une unité de PIB, un millier d'euros de PIB. Au-delà de ça, il y a des substitutions qui peuvent se faire. Mais d'une manière générale, c'est vrai que notre intensité énergétique décroît. Alors, elle décroît maintenant dans tous les pays du monde. Et le pays où elle décroît, où elle a décru le plus rapidement récemment, c'est la Chine, à cause du progrès technique, à cause de la dématérialisation de l'économie. Vous voyez, on a une décroissance continue. Et puis, évidemment, qui va être accélérée si on a des coûts d'énergie importants. Alors, la place du pétrole dans l'économie, vous avez ici sur une grande période, vous voyez, 1960, voilà, encore une fois une date, mais il y a eu des évolutions beaucoup plus récentes ces dernières années, puisque là, c'était des prospectives qui allaient jusqu'en 2020. Vous pouvez voir la place, donc en noir, du charbon. Vous voyez que dans les années 60, on avait un charbon qui prenait une part très importante dans l'économie. Le pétrole en rose, la croissance très forte du pétrole dans les années avant le choc pétrolier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour le pétrole? Il y a eu, après le choc pétrolier, des substitutions, des économies d'énergie et des substitutions. Le pétrole a été, en France en tout cas, pratiquement presque supprimé de la production d'électricité. Il a été, donc, le nucléaire a pris une place importante dans les l'électricité, c'est en bleu. Donc, vous voyez, en fait, ce qu'on appelle c'est la partie, donc, électronucléaire, de production. Et puis le pétrole, eh bien, il est réservé maintenant aux usages essentiellement les transports, les carburants, pour les véhicules et les poids lourds. Il est encore utilisé pour la pétrochimie en tant que matière première. Et puis encore des usages pour le chauffage, le fuel oil domestique, et une petite part également dans l'industrie pour du fuel sous chaudière. Alors, les évolutions.
Oui. Les tendances qu'on aperçoit à la suite du choc sont remises en cause marginalement, mais enfin vous avez une baisse qui concerne l'électricité d'origine nucléaire et au contraire un pétrole qui... Pourquoi? Oui. Quelle est votre explication?
Parce que c'était une prospective du plan dans les années 90, à un moment où, vous voyez, il y a écrit scénario S2 V40. C'était un scénario très libéral. On avait plusieurs scénarios, les mecs étaient très libérales, et en fait, les experts dans les années 95-16 se disaient, ben, en fait, le nucléaire, vu les coûts d'investissement, bon, on en a en France parce qu'on est un pays où l'État investit très fortement, mais on voit bien que ça ne se développe pas dans les autres pays, donc avec les durées de vie des centrales qui sont de temps, un des scénarios disait, ben, en fait, après, il n'y aura pas de renouvellement du nucléaire. Les choses ont changé depuis, et voilà, c'était une très bonne question. Alors, les coûts des énergies depuis 2000, bon, ça a été présenté par les autres intervenants, je ne vais pas intervenir, mais pour vous montrer quel impact ça a eu sur les ménages. Alors, vous avez ici les quintiles des ménages en fonction de leurs revenus. À gauche, les ménages à plus bas revenus. Alors, et en ordonnée, c'est quoi? C'est le poids de l'énergie, donc chauffage dans les logements et les carburants pour les déplacements. Le poids de l'énergie dans le budget des ménages. Et vous voyez, dans le quintile des ménages à plus faible revenu, il est passé en 6 ans, entre 2001 et 2006, de 10% à 15%. Donc vous voyez quand même la vulnérabilité de cette catégorie de la population à une augmentation des prix de l'énergie, alors que quand vous regardez sur les quintiles les plus élevés, proportionnellement, bah, naturellement, il est plus faible, et aussi, il a peu bougé. C'est pas parce que, effectivement, le prix a évolué. Alors, ce qui est intéressant de regarder aussi, maintenant, c'est pousser...
Une question, il y a... Oui.
Alors, le quintile.
Le dernier.
Eh bien, parce qu'ils ont fait des économies d'énergie. Ils ont moins consommé.
Plus que d'autres.
Voilà,
plus
que d'autres.
Parce qu'ils ont un moyen de les faire.
Ben, je pense qu'il y a eu un effet aussi de par la hausse des prix sur notamment les transports. Les gens ont moins roulé, c'est ce qu'on a vu aussi dans les années les plus récentes. En 2005, il y a eu une baisse des consommations de transport, et ça, c'est pour les gens qui pouvaient se permettre de moins rouler, qui roulaient peut-être de façon superflue. Alors, les dépenses des ménages par type d'énergie, je pense que c'est important pour comprendre aussi quelles sont les différentes contributions. Alors ça, ce sont des moyennes, encore une fois, par quintile de revenus. Donc vous avez à gauche les ménages avec les plus bas revenus. Vous voyez qu'il y a une part, bon, les abonnements EDF-GDF, puis après les livraisons elles-mêmes. Alors évidemment que c'est des moyennes, donc en général, les ménages se chauffent ou à l'électricité, ou au gaz, ou au fioul domestique. Mais vous voyez la part que représente le chauffage et le logement, qui sont les quatre premières barres en partant du bas. Donc ça, c'est pour le chauffage. Et vous voyez, bah, évidemment, ça croît relativement, ça croît un petit peu avec les revenus, parce qu'on a des appartements plus grands, des maisons plus grandes, mais on ne se chauffe pas forcément au double degré quand on a plus de revenus. En revanche, quand vous regardez la partie la plus haute, qui sont les carburants, là, vous voyez qu'il y a une différence qui est évidemment énorme entre les groupes plus importants, relativement, entre les ménages à plus bas revenus, qui donc utilisent moins leur véhicule, que les ménages à plus haut revenus. Alors, dernier point, et ça a été évoqué par Antoine Dautune aussi, sur cette... là, c'est non pas par quintile, la présentation de ces consommations d'énergie en valeur, hein, en euros, et là, c'est dans leurs revenus. C'est en pourcentage de leurs revenus, en fonction de la localisation de ces ménages. Alors, on ne le voit peut-être pas très bien. À gauche, vous avez les ménages ruraux, et vous voyez que donc les ménages ruraux leur consommation d'énergie, chauffage et déplacement représente 12% de leurs revenus, alors que vous avez ensuite les petites villes, les villes moyennes, les grandes villes et l'agglomération parisienne. Donc une décroissance de l'ensemble des consommations d'énergie. Alors deux facteurs sur les logements, parce que les logements collectifs consomment moins d'énergie que les maisons individuelles, la proportion évidemment des logements individuels dans l'agglomération de Paris est plus faible qu'en rural. Et par ailleurs, évidemment également, l'utilisation des véhicules est beaucoup plus faible au fur et à mesure qu'on est dans une grande densité, parce qu'il y a des transports en commun pour se déplacer. À Paris, hein, je rappelle qu'il y a moins d'un ménage sur deux, ou à peu près un ménage sur deux, qu'une voiture ou l'autre n'en ayant pas. Donc vous voyez qu'à travers ça, on voit effectivement une vulnérabilité et une précarité énergétique pour certains types de ménages. Alors, dans la deuxième partie, et je passerai sur certaines diapos vu le temps qui passe, le Grenelle de l'environnement s'adressait donc à différents objectifs environnementaux. Ça a été un débat entre les différentes parties prenantes de la société, et le changement climatique a été l'une des deux principales thématiques, un des deux gros enjeux avec la biodiversité auxquels il fallait répondre. Et au sein du changement climatique, le secteur du bâtiment, compte tenu de ses consommations d'énergie, 44% l'énergie finale totale, alors c'est pas seulement les logements, c'est aussi les bâtiments tertiaires, et 20% des émissions de gaz à effet de serre étaient l'enjeu prioritaire. Alors c'était l'enjeu prioritaire aussi parce qu'il y a un gisement, un potentiel d'économie d'énergie qui est énorme dans le bâtiment. Pour vous donner de l'ordre de grandeur, les bâtiments neufs ont une norme actuelle qui est de l'ordre de 100 kWh par mètre carré par an, consommation actuelle. En 2012, ce sera 50. En 2020, ce sera zéro, le bâtiment qu'on appelle à énergie positive. Et le parc existant, c'est 240. Le parc, la moyenne du parc existant, c'est 240 kWh par mètre carré par an. Donc, l'objectif de 40% d'économie d'énergie 2020 est basé un petit peu sur ce gisement. Alors, ce qu'on a constaté, c'est qu'actuellement, les travaux des réhabilitations, alors ça, je parle avant le Grenelle, c'est en train de changer, on avait dans nos enquêtes à peu près 2,5 millions de travaux. Hein, le parc, c'est à peu près des résidences principales, 25 millions, dans le bâti chaque année, 13 milliards d'investissements. Pourquoi aussi peu de travaux, alors que, comme je vous l'ai dit, 240, ça pourrait pousser à des économies? Ben, parce qu'il y a une forte proportion de locataires qui n'ont pas beaucoup d'intérêt à faire des travaux. Un endettement des accédants à la propriété, parce qu'en général, ils sont complètement endettés, et puis les temps de retour aussi qui sont relativement faibles. Alors les mesures qui ont été mises en place, bon, plusieurs mesures, des mesures d'information, etc., des étiquetages des logements, mais je vais insister sur les mesures incitatives, économiques. Donc un crédit d'impôt pour les équipements économiques d'énergie qui existait déjà, qui a été renforcé, entre 15 et 40%. Extension de la main-d'œuvre à l'assiette pour l'isolation, parce que c'était le parent pauvre des travaux engagés. Un éco-prêt à taux zéro, alors je vais insister, c'est une mesure qui a été mise en place au mois d'avril dernier, et d'ores et déjà, on a 50 000 éco-prêts qui ont été vendus, enfin, placés par les banques à cette date. Donc, un éco-prêt à taux zéro, ça veut dire quoi? Ça veut dire un prêt entre 10 et 20 000 euros, donc c'est quand même pour des travaux relativement importants, sans intérêt, sur des périodes de 10 à 15 ans. Donc 20 000 euros sur 15 ans, ça fait des mensualités, un taux d'intérêt de zéro, ça fait des mensualités faibles. Donc c'est un instrument relativement puissant. Et puis ça a été évoqué, la contribution carbone énergie ou taxe énergie, donc là, avec une valeur qui a été annoncée très récemment de 17 euros par tonne de CO2, donc une valeur relativement faible par rapport aux 100 euros auxquels doit arriver ce niveau en 2030, tel que les économistes l'ont évalué, n'est-ce pas? Et alors ça représente quoi? 17 euros par tonne de CO2, ça représente 51 euros par ménage, là au niveau de la taxe, pour la partie chauffage, en moyenne, pour la partie chauffage, et à peu près autant pour les carburants. Et puis un autre instrument, les certificats d'économie d'énergie, qui là pèsent sur les fournisseurs d'énergie pour faire des travaux chez les particuliers, chez les consommateurs. Alors, toutes ces mesures visent des réhabilitations de 400 000 logements par an, et donc s'attaquer à ce stock du parc existant qui a des conditions très faibles. Alors, on a modélisé quel était l'impact de ces mesures. Alors, l'impact de la contribution climat-énergie ou de la taxe, hein, qui est 17 euros la tonne de CO2, ça pourrait, je prends toutes les précautions puisqu'il s'agit de modélisation, induire 160 000 travaux supplémentaires, plus 6%, un peu plus de 6% d'augmentation des travaux, une hausse des dépenses de travaux de 13%, et donc un peu moins de 500 000 tonnes de CO2 évitées. Le prêt à taux zéro, lui, que j'ai évoqué, donc s'il a une large diffusion telle qu'on l'attend, on aurait 256 000 travaux supplémentaires, mais les travaux, vu les montants de 10 000 euros prêtés par ménage, 1 000 euros, une augmentation de 10%, 12 milliards de travaux supplémentaires, donc une multiplication par deux des travaux dans le domaine des bâtiments, et plus de 2 millions de tonnes de CO2 évitées. Alors, on a modélisé avec un modèle d'équilibre général dynamique quels seraient les impacts. Alors, l'intérêt, c'est là par rapport à un choc externe de pétrole. C'est vrai que si c'est l'Arabie Saoudite et l'OPEP qui récupèrent effectivement la rente du pétrole, là, à travers ces mesures, la contribution climat-énergie, elle est restituée au ménage, parce que c'est déjà le fait, elle sera donc restituée à l'euro près au ménage, tout en gardant l'effet incitatif, puisque les ménages qui pourront diminuer leur consommation économiseront effectivement des euros. Les modèles nous montrent qu'on aurait une incitation globale de 60 milliards de travaux cumulés sur la période 2009-2013, 2013, des économies d'énergie. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qui est important, peut-être, c'est la création d'emplois, parce qu'à travers ces mesures, on relance une activité qui est celle du bâtiment, avec des emplois qui sont des emplois, non pas, c'est pas de l'activité importée, sur les petites parts des composants qui peuvent être importés. Il y a donc un effet de relance endogène important à travers le fait de favoriser les travaux dans le bâtiment. Je passe rapidement. Alors, je termine sur le secteur des transports, où là, on n'a pas ce gisement aussi important. On n'a pas d'alternative technologique. Je parlais de bâtiments à énergie positive. On sait faire des bâtiments qui se consommeront zéro énergie. On sait d'ores et déjà les faire. Ils seront énergie positive avec un peu d'énergie renouvelable. Les voitures, on ne sait pas faire des voitures qui ne consomment pas d'énergie actuellement. Alors, parmi les instruments dans le domaine des transports, et là encore, je parle des ménages, il y a bien sûr la taxe sur les produits pétroliers, elle a été évoquée, la contribution climat-énergie qui va peser également à peu près pour le même montant de 51 euros par an et par ménage. Alors effectivement, ça va dépendre du nombre de kilomètres effectués par les ménages, mais c'est une moyenne. Il y a un instrument qui a été mis en place à la suite du Grenelle de l'environnement, qui est donc le bonus-malus sur les véhicules neufs. Donc l'idée est d'avoir une action au niveau du renouvellement du véhicule et de la décision d'achat des ménages. On avait une moyenne en 2007 de l'ordre de 145, je crois, grammes de CO2 par kilomètre, en termes d'efficacité des véhicules moyens vendus en France. Donc le bonus a été mis de façon à ce que les voitures achetées qui consommaient moins de 140 grammes de CO2 par kilomètre, donc des voitures plutôt économes, ont une prime qui varie suivant entre 140, 120, 110, etc., qui commence à 200 euros, qui peut aller jusqu'à 1000 euros, sans parler des primes aux véhicules électriques. Et puis un malus pour les véhicules qui émettent plus de 160 grammes de CO2, et ce malus commence à 750 euros et peut aller pour les voitures les plus consommatrices ou émettrices de CO2 à 2600 euros par véhicule. C'est payé une fois au moment de l'achat. Alors, en fait, on avait travaillé à l'ADEME sur ce dispositif et l'idée était qu'il soit neutre globalement, c'est-à-dire que le total des malus compense le total des bonus. En fait, comme le résultat, ça a un peu trop bien marché et in fine, l'État s'est trouvé déficitaire en 2008 et en 2009. Donc en 2010, les taux vont être baissés pour s'ajuster à la demande, puisque ça marche bien. Et donc il y a eu un déficit global, c'est-à-dire plus de bonus à distribuer que de malus à récupérer. Donc un impact important de 148 grammes à 134 grammes de CO2 en moyenne, achetés par les ménages sur les voitures neuves. Les véhicules, alors il y a des catégories comme étiquette sur les réfrigérateurs, vous ne la connaissez peut-être pas, ou sur les machines à laver, les logements A, B, C jusqu'à G. Les A étant les meilleurs, les véhicules les moins émetteurs, et donc les catégories A et B sont passées de 19 à 38%, et les voitures qu'on appelle malus C, donc qui n'ont pas 160 grammes, sont passées sous la barre des 10%. Alors, il y a un graphique qui montre bien, vous avez ici l'évolution sur les de 2004 à 2008, donc c'est les catégories des véhicules. Donc A, il y en a pratiquement très très peu, A c'est epsilon. B, c'est des voitures donc, très efficaces. C, B, G, c'est des gros 4x4 Ferrari ou autres. Et vous avez donc les évolutions 2004 jusqu'en. Alors le graphique bleu jusqu'en 2007. Et puis 2008, le graphique vert, c'est l'impact du bonus-malus, puisqu'il a été introduit au 1er janvier 2008. Et vous voyez notamment sur les B, donc l'augmentation très importante des B, et puis la diminution sur toutes les autres catégories entre 2007 et 2008. Alors c'est un instrument qui a eu un impact très rapide et très important et qui va conduire donc effectivement à déplacer un petit peu les bonus avec davantage d'exigences. C'est pour ça que c'est construit. Et alors je termine avec ces mêmes graphiques. J'ai fait disparaître 2004 à 2008, mais vous avez donc le graphique, la barre, toujours A, B, C, D, G, les meilleurs véhicules et les moins bons. Les parts de marché en 2007, c'est la barre bleue. Les parts de marché en 2008, donc vous voyez en B la croissance forte du marché des B par rapport à l'année précédente et les décroissances des autres. Et puis on a simulé quel serait en 2012 l'impact de cet instrument, alors d'abord sans hausse du prix du pétrole et ensuite conjugué avec une hausse du prix du pétrole pour estimer quel pourrait être l'impact de ce type d'instrument, qu'est-ce que ça va conduire. Effectivement, en soi, il va avoir un impact qui va aider à réduire les consommations, et puis si le pétrole augmente, il va aider aussi les ménages à dépenser moins d'argent. Alors, il faut dire aussi quand même en 2008 qu'il y a eu la conjugaison de cet instrument et de la hausse forte des prix du pétrole, mais on voit qu'en 2009, on n'a pas encore les chiffres évidemment sur 2009, mais dans le premier semestre, la tendance a suivi exactement sur le même trend le déplacement des différents véhicules. Merci.
Bien. En conclusion, je vais demander à chacun des participants de dire, pour réduire cet impact sur l'économie, sur les agents économiques, quels seraient les mesures prioritaires. Est-ce que vous pouvez vous limiter, ne nous donnez pas une liste, mais est-ce que vous pouvez vous limiter chacun à la mesure qui s'impose selon vous, ou celle qu'il faut renforcer, puisque vous avez déjà évoqué le sujet. Puis ensuite, vous aurez la parole. Monsieur Dodu.
Je n'ai pas préparé de réponse toute faite à cette question. De toute façon, n'envisagez pas de ressortir les six grandes têtes de chapitre de préconisation qu'on avait. Ce que je pense, c'est que c'est un mode, on va changer, on a déjà commencé à changer de mode de production. Les entreprises ont commencé à le faire et savent le faire, une partie viendra d'elles. Mais il y a des raisons fortes à avoir une intervention de l'État, quelque chose qui se rapproche d'une politique industrielle. Les temps changent un peu, on peut recommencer à dire ça, pour pas mal de raisons. Il y a des raisons, il faut aller vite, il y a des raisons qui tiennent à l'environnement, et il y a des raisons plus industrielles qui tiennent que si le mode de production change, il faut que la France ait des points forts dans son dispositif industriel, dans les nouvelles technologies. Et là, bon, il y a vraiment des raisons de soutenir ça. Voilà. Donc,
merci. Philippe.
Moi aussi, je n'ai pas spécialement préparé. Très spontanément, notre problème majeur, il est dans le champ des transports. Puisque je prends l'hypothèse que nous maintiendrons, nous renforcerons le nucléaire, qu'un certain nombre d'énergies alternatives se développeront, il n'en reste pas moins que nous n'avons pour l'instant pas trouvé d'équivalent et de praticabilité au pétrole, que ce soit pour le transport au routier, que ce soit pour le camion, etc. Et donc, il me semble que là, nous avons mis dans nos préconisations le maintien de la prime à la casse. Et ça, je pense que c'est un simple de bon goût et que ça peut renouveler assez rapidement le parc automobile français, même si je sais bien.
Et son extension au camion.
Alors, non, attends, ça c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Il y a incontestablement un problème majeur, notamment dans un pays comme la France. Quand on regarde au fond sur la longue facette, la France, réaction au premier et deuxième choc pétrolier, nous avons été particulièrement vertueux. Nous avons limité notre dépendance pétrolière de manière considérable, sauf dans un secteur, le transport, et à l'intérieur du secteur des transports, dans le transport de marchandises. Nous payons aujourd'hui la faillite du fret SNCF. Alors je suis partisan de sa privatisation, de la mise en concurrence. Et effectivement, je pense qu'il faut arriver à éradiquer, autant que faire se peut, les transports de pondéreux par camion. Pensez, alors nous sommes à Lyon qui n'est pas un port maritime, quoique, 80% des céréales exportées par Rouen, premier port céréalier européen, 6 millions de tonnes de blé exportées chaque année, arrivent à Rouen en camion. À Rouen. trouve que c'est Rouen qui est le port d'exportation. Mais s'il est des produits qui devraient arriver en train complet, etc., c'est bien impondéreux comme les céréales. Donc on voit bien tous les efforts en ce sens-là qu'il y a encore à faire. Et je pense que notre chance, c'est que Lionel, je pense, a raison. Demain, le pétrole sera probablement plus cher qu'aujourd'hui. Et c'est la seule manière de nous obliger sous la contrainte à faire les réformes nécessaires.
Lionel Racco, à votre tour.
Très rapidement, parce que j'ai pris beaucoup de temps tout à l'heure, mais je pense qu'il faudra qu'on laisse le temps à ça.
Une mesure.
Une mesure, je crois que c'est. C'est dans la continuité de ce qui a été dit, c'est que. Il faut poursuivre cette baisse de l'intensité énergétique. Et on fera du clair du coup, hein, on va réduire notre dépendance au pétrole.
C'est pas une mesure, ça.
Non, mais justement, j'y arrive. L'objectif pour la mesure, il faut réduire cette intensité énergétique, donc on rendra moins sensible de l'économie aux fluctuations du pétrole, sa montée progressive. Et on résoudra en partie, on atteindra l'objectif environnemental. Ils sont liés. Hein, ils sont liés. Et pour faire cela, il faut poursuivre, je pense, tous les efforts qui ont été menés et les développer pour inciter les ménages, et pas seulement les ménages, les entreprises, à adopter des technologies, des maisons, des véhicules qui consomment moins. Et ça passe par, je pense, des subventions à la recherche et développement dans des technologies moins polluantes.
Monsieur Moisan, votre préconisation.
Je parle de le soutien à la recherche parce que c'est moi j'ai un budget et je suis déjà parti. Non, moi je dirais, c'est pas le problème, mais faire des villes où on peut utiliser davantage l'interopérabilité des modes de vie. C'est-à-dire pouvoir utiliser le vélo, les tramways et pas seulement les véhicules. Je crois que là, c'est la responsabilité des collectivités territoriales. Il y a des programmes énormes pour baisser et pour pas forcément très très cher les consommations d'énergie, de pétrole et avoir moins de gaz à effet de serre.
Merci beaucoup. Alors maintenant, si vous avez des idées sur la survie, c'est le moment d'en faire part et ou alors des contestations de celles qui viennent d'être exposées. Madame.
Moi j'ai un petit doute parce que.
Un micro peut-être. Ah, c'est bien.
En fait, vous préconisez des interventions militaires, mais moi j'ai un petit doute à ce sujet-là, parce qu'étant donné qu'on est en crise économique, la tendance, ce serait plutôt le recul. Moi j'ai été stupéfait, j'ai appris la semaine dernière par Thalassa que l'Islande, suite à la crise financière, on se dit à la limite ils vont réfléchir de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme alternative à la crise, et bien qu'est-ce qu'ils font? Ils remettent en question le moratoire sur la pêche à la baleine, et avec l'approbation de 76% de la population. C'est-à-dire qu'en période de crise, avant la crise, on disait qu'il faut faire des économies, il faut travailler sur l'environnement, il faut investir sur l'environnement. Et est-ce que la crise, aujourd'hui, ce n'est pas un vœu pieux et l'État ne pourra pas intervenir? Et après, il y a un autre aspect aussi, mais en France, ça ne se conteste pas depuis très longtemps. En plus, toute ma famille qui travaille dans le nucléaire, il y a une omerta sur le nucléaire, et en plus, comme ça, il n'y avait pas de CO2, le nucléaire est considéré comme une énergie propre et tout est basé là-dessus. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Mais bon, voilà, c'était plus sur le doute de prendre des bonnes décisions et est-ce que la crise fait qu'on a un recul suffisant? Donc, je sais pas, l'attitude de l'Islande m'a profondément étonné.
Ils ont fait une chose admirable, les Islandais. C'est tellement la crise qu'ils ont fermé leur McDo.
Oui, mais
pour faire des chèques de baleines.
Quand même. Ça vaut toutes les baleines de la Terre, ça.
Non, mais par rapport à votre question, est-ce que l'État aurait à être moins présent parce que c'est la crise? C'est quand même une question de fond, parce que je veux dire, c'est peut-être à ce moment-là, parce qu'il y a une crise qui a besoin de plus de services publics, d'intérêts collectifs, que individuels. Moi, je pense que le gouvernement islandais est lancé dans la peur sur la baleine. Bon. Certes, ce que je voulais dire, c'est qu'à travers un plan bâtiment, par exemple, hein, parce qu'il y a ce débat sur la taxe carbone qui a été, et d'abord quand on dit taxe carbone, on ne parle pas du fait qu'elle est redistribuée intégralement. Il y a ce débat, est-ce que c'est le moment de mettre une taxe, c'est-à-dire ce niveau il est à 17 euros, c'est, il n'est pas à 32 comme il était envisagé, c'est bien parce qu'il y a une crise économique. Néanmoins, je pense que la crise économique, elle est liée aussi à la crise écologique dans laquelle on vit. Bon, peut-être que ce sera un autre débat qu'il faudrait faire sans doute ici. Mais je pense qu'une relance sur le bâtiment, par exemple, les mesures qui sont prises sur le bâtiment, c'est justement ce que j'essaie de dire assez rapidement, c'est créer de l'emploi. Alors effectivement, on va au début peut-être créer un peu de déficit, mais on va relancer des activités nationales, parce que le bâtiment, c'est des emplois qui sont en France. Et à partir de là, on va avoir à la fois des économies d'énergie, et ça peut être un des moyens de sortir de la crise aussi. Je ne suis pas le seul, évidemment. C'est de faire d'avoir des nouvelles technologies qui vont être, sur lesquelles tous les pays maintenant sont en concurrence, on appelle des technologies vertes, du solaire, de l'éolien. Les Chinois sont maintenant des leaders sur ces marchés. C'est bien là-dessus qu'il faut investir. Et je pense que le rôle de l'État, c'est aussi d'accompagner ces industriels et de les pousser à aller dans ce sens-là. Moi, je pense à un niveau, au moment même où c'est la crise.
Là, vous rejoignez complètement la conclusion de Lionel Rabault.
Non, mais là, on ne s'entendait pas. Je n'ai pas dit que s'il ne fallait pas le faire, c'est que malheureusement, le déficit, en plus, aujourd'hui, on est à 9%, la crise fait qu'on va avoir une attitude de recul et de, par rapport à ces préconisations. Et puis, en plus, le pétrole ayant baissé, naturellement, de par la baisse de la demande, on va reculer nos... est-ce qu'en 2012, on va répondre aux objectifs du sommet du Grenelle de l'environnement, c'est pas sûr.
Une question, oui. Monsieur. Oui.
Je passe le micro. Oui. Vous avez bien exprimé qu'il y avait des secteurs qui étaient plus ou moins concernés quand même quand le prix du pétrole augmentait. On a parlé des ménages, mais si on va du côté des entreprises, il y a des secteurs qui sont pénalisés. On le voit bien à chaque fois que le prix du pétrole augmente. Ça va être le secteur des transports, vous l'avez évoqué, les marins pêcheurs, les agriculteurs, un certain nombre des cimentiers. Bon, quelle doit être la réaction des pouvoirs publics? Est-ce qu'ils doivent, finalement, face à leur réclamation, puisqu'ils voient se dégrader leurs conditions financières, est-ce qu'ils doivent finalement leur donner de l'argent pour finalement leur permettre de continuer leur activité comme avant? Ou est-ce qu'ils doivent, quelles mesures vous préconiseriez aux pouvoirs publics pour peut-être aller dans le sens de réduire la consommation de pétrole?
Antoine Dantu.
Oui, la réponse théorique pour les économistes est relativement claire, c'est-à-dire qu'il faut faire, il faut pas faire des subventions qui les poussent encore à continuer dans ce qui ne va pas. Donc on ne peut pas subventionner les gens qui sont gros consommateurs de pétrole parce qu'ils sont gros consommateurs de pétrole, parce qu'ils continueront à l'être. Et pourtant, il faut les subventionner parce qu'ils souffrent, etc. Donc l'idée est, a été fait un peu dans la taxe carbone, c'est il faut des subventions, mais des subventions qui soient intelligentes, qui soient déconnectées complètement de leurs décisions. Alors, pour la pêche, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que, bien sûr, on pourrait parler longtemps de tout l'arrière-plan du problème de la pêche. En partie, c'est qu'ils ont réagi à la rareté du poisson en ayant des bateaux plus grands, plus puissants, plus consommateurs de pétrole, etc. Donc, ce qu'il faut faire, c'est pas encourager ça, c'est sans doute qu'il faut les aider, mais à condition que donnant, ils changent leur mode de production, etc. Donc, il faut essayer de faire des choses plus intelligentes qui ont des aspects durs. Ça ne fera pas plaisir à tout le monde, mais on ne peut pas aller au fil de l'eau.
Il y a un raccourci, encore plus beau.
Sur ce, j'en prends l'exemple de la taxe carbone. On a deux réactions un peu différentes, c'est-à-dire que, comme ça a été dit, il y aura, ça ne sera plus le chèque vert, mais il y aura une redistribution de la somme reçue de provenant des ménages qui payent la taxe carbone. Donc, pour un économiste, c'est pas trop grave ça, puisque ça change bien le prix relatif, ça coûtera plus cher d'utiliser le pétrole, peut-être pas son gaz, c'est pas la meilleure alternative, je préfère plus que des énergies propres. Donc, ça ne change pas le prix relatif, ça reste incitatif, et puis, donc, c'est une subvention forfaitaire, enfin, c'est pas une subvention, c'est un retour forfaitaire. Ce qui a été décidé pour le secteur de la pêche, les agriculteurs, c'est pas la même chose, c'est une exonération. Donc, il n'y a plus du tout le côté incitatif, ils ne paieront pas la taxe carbone. Et ça, en tant qu'économiste, c'est une erreur. En tant qu'économiste, effectivement, c'est une erreur parce que c'est, et en plus, c'est un des secteurs les plus importants. Donc, on sera loin d'atteindre l'objectif recherché.
Bien. Y a-t-il. Oui.
Juste pour information, pour
Alors, une question sur le curage des canaux.
Parce que tout à l'heure, vous parliez des transports et des transports routiers. Vous savez qu'on a plusieurs milliers de kilomètres de canaux. On a commencé à travailler. Je voulais savoir où on en était.
Alors, je ne peux pas vous répondre spécifiquement sur le curage des canaux. par contre, vous pouvez peut-être remercier un certain nombre de politiques qui ont bloqué la liaison Rhin-Rhône. Il y a un énorme projet, il y a un énorme chantier à l'heure actuelle qui va être la liaison Seine vers le Nord. Hein. Parce que notre problème était que, effectivement, notre système de canaux, le gabarit fréciné, c'était beaucoup trop petit, pas rentable, etc. Les céréales pour arriver à Rouen, la voie d'eau n'était pas le système le plus idéal. Mais Rhin-Rhône s'est remis au canal grec, je crois. L'autre, c'est pour dans quelques années. C'est pas ça qui va changer non plus, quand même.
Un avantage en termes de production, et ensuite ce sont des emplois qui ne sont pas délocalisables.
Je ne serais pas étonné que dans le grand emprunt, il y ait des propositions sur les nouvelles navigables compte tenu de la développement.
Voilà un scoop. Autre question.
Je pense à quelque chose de complètement différent, c'est par rapport au Brésil, un pays dont on a un peu parlé. Et le Brésil, on a découvert des poches de pétrole au large de Santos qui seraient fabuleuses. Est-ce qu'il y aurait un impact possible sur l'offre globale? Première question. Deuxièmement, il y aurait une politique de Lula qui serait plus particulière parce qu'il craint la malédiction du pétrole et il aimerait plutôt réserver le pétrole à son pays. Est-ce que vous pouvez peut-être dire quelque chose?
Oui, alors la découverte au large du Brésil, c'est à peu près à 300 km au large de Rio, c'est un champ qui s'appelle Carioca. Techniquement, c'est assez extraordinaire, puisque vous avez 3000 mètres d'eau, et puis ensuite 3 ou 4000 mètres de sel. Et le sel, c'est quand même pas très très bon pour les aciers dont on va avoir besoin pour tirer le pétrole. Donc c'est du pétrole qui va sortir, on sait pas très très bien à combien, mais de l'ordre de 70-80 dollars, qui sera effectif aux alentours de 2015. Ce n'est pas ça qui va changer la face du monde. Donc ceux qui disent que oui, nous allons atteindre le peak oil quelque part entre 2020-2030 et qu'à ce moment-là, le monde produira quelque part entre 100 et 110 millions de barils, ils ont très probablement raison. Alors, il y a toujours quand même des possibilités technologiques que nous ne maîtrisons pas. Aujourd'hui, dans un champ pétrolier, vous... parvenez à ramasser 35-40% de la teneur en pétrole. Les gens de Schlumberger disent on pourra atteindre 50%. Vrai, faux, je ne sais pas vous le dire. Je vais vous donner un exemple quand même. Pendant des années, on a pensé que les ressources de gaz naturel des États-Unis étaient finies et qu'elles allaient peu à peu diminuer. Et au point que les États-Unis, qui sont de gros consommateurs de gaz, devraient importer, ce qui leur posait un énorme problème d'installation, de regazéification, etc. Depuis quelques années, se développent des sources non conventionnelles de gaz naturel, ce qu'on appelle le shale oil. Je ne sais pas très très bien comment ça se traduit en français. Toujours est-il que c'était du gaz. On savait que ce gaz était là, on ne savait pas l'exploiter. Aujourd'hui, on sait l'exploiter, et paradoxalement, alors que c'est, quand on regarde les cotations du gaz naturel aux États-Unis et du pétrole, c'est le gaz naturel qui, en équivalent, est le premier passé à 100 dollars le baril. Aujourd'hui, le pétrole est à 80 dollars le baril, le gaz naturel est à l'équivalent de 30 dollars le baril. Et toute la scène américaine du gaz naturel se trouve bouleversée par l'arrivée de ces nouvelles productions. Moi, je pense que, oui, il y aura toujours des nouveaux champs, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Et il faut se dire qu'à la fin de ce siècle, il n'y aura quasiment plus de pétrole. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, à la fin de ce siècle, donc, vous voyez, deuxièmement, assez rapidement, c'est-à-dire vers 2040, l'essentiel du pétrole se trouvera, l'essentiel du pétrole exploitable, se trouvera dans une zone sympathique du monde, qui est le golfe arabo-persique. C'est tout. Pouvoir de marché et danger géopolitique, surtout quand on sait que, notamment, l'équilibre de l'Arabie saoudite est quand même d'une certaine forme, d'une certaine précarité.
Le picole pour un PDG d'une grande compagnie française de pétrole, ouais. c'est bien la norme.
Alors, le PDG en question avait mis le picole pratiquement en 2010, un peu avant, et il avait dit que jamais le monde ne produirait 100 millions de barils jour, et ça, il l'avait dit en janvier 2008. Ça a concouru d'ailleurs à cette phase d'exubérance irrationnelle, de bulle irrationnelle. Mais ça, ça vous étonne sur le pétrole. Moi, je suis beaucoup les marchés de matières premières. Il y a des moments de déraison totale. Relisez ou revoyez ce merveilleux film Le Sucre. C'était un roman de Georges Conchon qui passait. Eh bien, Le Sucre, ça se cote en cents américains, la livre de 470 grammes. À la fin des années 60, une livre de sucre, ça valait 2 cents. En novembre 1974, on est monté à 65 cents. En 1975, on était redescendu à 7. On s'est baladé entre 7 et 20 toutes ces dernières années. Et actuellement, on est à 24 ou 25 parce que le marché est largement déficitaire pour des tas de raisons. Mais le moment où on est monté à 65, c'était totalement déraisonnable. C'était totalement irrationnel. Et il y a quelqu'un qui a été le dernier à prendre une position et à acheter du sucre à 65 cents.
Voilà. Je crois qu'il faut peut-être rendre la salle à 19h. Donc, je retiens de ces échanges que la lucidité des économistes est indispensable pour éviter l'hubris et l'illusion, mais que l'ensemble des échanges, pour moi, a une convergence optimiste parce qu'on a montré que nous nous adaptions face à ces contraintes et que nous prenions des mesures dont certaines paraissent bonnes. Donc, nous allons, mesdames et messieurs, survivre. Merci.